L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mars, et il fait très très beau, hein. Je remplace Claire qui ne peut pas faire la météo pour le moment, mais elle reviendra très très vite dans la suite de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de l'AMAP, de l'association donc pour le maintien d'une agriculture paysanne à Laval, qui maintient son service malgré le confinement. Vous entendrez différents producteurs qui leur expliquent un petit peu le fonctionnement et ce que ça leur apporte. On aura aussi un reportage sur les mini-entreprises menées par des collégiens, et vous le verrez, ils s'expriment comme des grands. Et puis l'interview sera consacrée à Unicité, cette association qui recherche des services civiques, là pour le mois de mai, et qui accueille déjà 16 jeunes là en mission toute cette année 2021. Vous entendrez justement leur témoignage et celui de leur coordinatrice. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité. Le vote en extérieur proposé par Olivier Richefou est repris par le Conseil scientifique. Le président du Conseil départemental de la Mayenne s'est déjà dit favorable à l'organisation d'élections départementales et régionales du mois de juin prochain en extérieur. Il s'est réjoui hier soir, je cite, que le Conseil scientifique reprenne sa proposition et appelle à s'inspirer des modèles étrangers. Mais le Conseil scientifique précise que ce sont aux autorités politiques de trancher concernant un report ou non de ces élections. Mathieu Orphelin, lui, demande au gouvernement de se donner les moyens de garantir des élections sécurisées pour le maintien des élections en juin 2021 comme prévu. Le vote par procuration doit être encouragé selon la tête de liste de l'appel écologique pour les régionales, à défaut de vote par correspondance ou d'autres solutions. Mathieu Orphelin rappelle les recommandations du Conseil scientifique pour la campagne électorale. Forte de bon sens, selon lui, pas de meeting physique, ni de rencontres publiques ou de soirées de campagne, et une préférence pour des débats en visioconférence. En Mayenne, une nouvelle classe fermée à cause de la Covid. Au collège de l'Immaculée Conception à Laval, il s'agit d'une classe de 5e, en raison d'un élève testé positif au coronavirus ce week-end. La classe reste donc fermée toute cette semaine, mais les cours se poursuivent à distance. En Mayenne, au total, 6 classes sont fermées administrativement cette semaine. Et face à la dégradation des indicateurs en Mayenne, comme partout en France, la préfecture rappelle la nécessité des gestes barrières et la nécessité de se faire vacciner. Le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, rencontre ce midi les soignants du service de réanimation du centre hospitalier de Laval. Valérie Ayé s'engage auprès d'Emmanuel Macron pour les prochaines présidentielles. L'eurodéputée mayennaise prend la tête de l'Association pour une renaissance européenne, une structure politique financée par La République en marche. Son objectif, aller chercher partout en France ceux qui partagent la vision européenne du chef de l'État. Une structure politique sur laquelle s'appuiera Emmanuel Macron pour faire campagne pour sa réélection en 2022. Retour donc ici en Mayenne, et ce matin, un accident a eu lieu à Mélédumène. Deux voitures sont entrées en collision vers 8h au croisement de la route de Laval et de la route de Saint-Denis-du-Maine. La circulation a été bloquée pendant un peu plus d'une heure. Deux personnes blessées dans l'accident ont été transportées à l'hôpital de Laval. Laval, d'où une fumée noire était visible hier après-midi à cause d'un feu qui s'est déclaré dans un champ de 7 hectares de miscanthus, une plante qui ressemble à du roseau. Et donc justement, cet incendie s'est déclaré vers 14h30 hier après-midi, et une vingtaine de pompiers est intervenue sur place et a réussi à éteindre le feu 2 heures plus tard sans qu'il n'y ait eu de blessés. La circulation sera interdite sur la départementale 124 à la sortie de Cossé-le-Vivien. Dans le cadre des travaux de contournement de la ville, sont entrepris la construction d'un giratoire et l'élargissement de la chaussée. La départementale 124 est donc interdite à la circulation vers et au départ de Cossé-le-Vivien jusqu'au 2 juin. Une déviation a déjà été mise en place par Méral, Saint-Poix et Montjean via la départementale 32. À Cran, le collège Volney obtient le label Internat d'excellence. Annonce faite il y a quelques jours par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Au total, 54 projets ont été retenus partout en France. Le président du département de la Mayenne, Olivier Richefou, dit se réjouir de cette labellisation du collège Volney de Cran. Les internats d'excellence sont de véritables tremplins vers la réussite éducative des élèves, avec un accompagnement au plus près de leurs besoins. Fin de citation. mais la réouverture de l'internat du collège Volnay nécessite auparavant une opération de remise en état évaluée à 443 000 euros qui seront financés en partie par des crédits du plan de relance national. Et puis donc Claire s'est rendue la semaine dernière au Foiride à Laval pour savoir comment s'adaptent les petits producteurs locaux. Et pour une bonne partie d'entre eux, ils font partie du NAMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc Claire s'est rendue mardi dernier voir les restes de la semaine. Jeu de mots pour la RES, vous le savez, ce grand panier en osier mayennais. Et ce sont les producteurs qui vont nous expliquer les avantages justement du NAMAP.
Moi, je m'appelle Agnès Bontemps, donc je suis exploitante à l'asinerie du Bois Gama à Laval. Je fais de la production de lait d'ânesse, des cosmétiques et des savons au lait d'ânesse. Nous, on est adhérente, productrice à la MAP depuis un an maintenant. Et en fait, on a commencé au moment de la crise sanitaire, parce qu'en fait, on s'est retrouvés en difficulté par rapport à l'accueil, donc plus d'accueil à la ferme. Donc ça faisait une grosse perte de chiffre d'affaires pour nous et ça nous a bien aidés. Il faut avoir une envie de consommer de manière globale des produits de qualité. Là, on a le lien aux producteurs, on sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient et on sait qui on fait vivre aussi. Ça a beaucoup de sens. L'aspect santé vraiment sur l'alimentation de qualité, mais aussi l'aspect économique en fait qui fait vivre un territoire, quoi. Moi, j'ai envie de trouver du sens à la façon dont je consomme et dont je fais manger mes enfants. Je sais pas si c'est lié à la crise sanitaire, mais en tout cas, il y a une évolution des pratiques de consommation des gens, ça c'est évident. Et avec une vraie volonté de savoir d'où viennent les produits, ce qu'il y a à l'intérieur, comment ils sont fabriqués et qui ils font vivre. Et c'est très bien. Enfin, ça veut dire que les gens reviennent à des logiques de consommation autres, quoi. On se pose des questions, c'est super. Il faut y croire et je pense que plus nous, on va y croire, plus nos enfants vont partir aussi sur des modèles comme ça. Et voilà, j'ai envie d'être optimiste là-dessus.
Clément, du coup, donc maraîcher au GAEC Radienco à Montflour. Aujourd'hui, du coup, donc ces paniers d'hiver, les légumes d'hiver se terminent et les légumes de printemps arrivent gentiment, quoi. Donc là, on a du patate, carottes, des blettes, de la mâche, des choux, des petits radibottes, des navets primeurs aussi. L'avantage des AMAP, du coup, c'est que donc nous, en légumes, donc on choisit les légumes qu'on met dans le panier. C'est plus simple à gérer que, par exemple, un système marché où il faut souvent avoir beaucoup de tout le temps.
Laetitia Minet, la ferme fruitière du Châtelier. Donc moi, je vends des fruits frais et également des produits transformés, confitures, sirops. Aujourd'hui, on a des confitures d'orange churro, de fruits rouges, de prunes, des sirops de fraises. Ah la MAP, c'est super comme fonctionnement, quoi. En fait, on a un vrai soutien de la part des consommateurs et puis qu'on connaît plutôt bien puisqu'on les voit régulièrement. Que ce soit Covid ou pas, pour moi, la MAP, c'est le meilleur moyen de commercialisation que j'ai.
Catherine Renaud, donc je suis coprésidente de la MAP. Et nous accueillons toute l'année les personnes qui souhaitent découvrir cette alimentation biologique mayennaise. On peut s'approvisionner en produits divers et variés, des œufs, des fromages de brebis, des fromages de chèvre qui vont bientôt revenir, des pâtes, du miel, de la bière, des plantes aromatiques, des poulets, et j'en oublie. L'objectif, c'est le soutien aux producteurs, donc de plusieurs façons, en approvisionnant justement et en réglant à l'avance ce que nous allons consommer, et d'autre part, avec une forme d'engagement, je dirais presque morale, tout ce que les producteurs apportent à la distribution le mercredi. Est vendu. Le soutien aux producteurs, à une agriculture locale, on ne mange que des produits de saison. En ce moment, on n'a pas de tomates, hein, c'est clair. L'agriculture qu'on appelle paysanne, c'est-à-dire une agriculture de type familial, un peu des petites fermes qui ont besoin d'être soutenues et qui sont l'avenir, je pense, de notre agriculture et de garder nos territoires actifs.
Merci Claire pour ce reportage, puisque ça y est, Claire est parmi nous. Bonjour Claire, et puis on va te laisser finir en tout cas et nous donner les dernières informations par rapport à cette AMAP.
Et oui, bonjour tout le monde, pardon, bonjour Marie. Et oui, pour l'AMAP, pour s'inscrire, c'est très simple, il faut se rendre sur le site amap53.fr pour avoir toutes les informations et pour trouver une AMAP la plus proche de chez vous. Celle où j'étais, c'était celle du Foirail, au 40 boulevard de Buffon, dans la zone des Touches à Laval, et c'est tous les mercredis de 14h à 18h.
Merci beaucoup Claire. On passe du coup au deuxième reportage. À 14 ans, ils fabriquent leur propre sac à tarte écolo. C'est le projet de la mini-entreprise des collégiens de Villaines-la-Juhel. Ils sont 10 élèves de 3e à être investis dans la démarche. Depuis septembre 2019, ils ont réfléchi, confectionné et vendu près d'une quarantaine de sacs à tarte fabriqués avec des sachets de café vide. Une création originale présentée lors du salon de vente des mini-entreprises organisé dans la galerie commerciale de Carrefour à Laval il y a une dizaine de jours. Chana, la directrice financière de la mini-entreprise, et Clémentine, sa directrice adjointe, nous expliquent.
On a eu l'idée de faire des sacs à tarte, mais on ne voulait pas que ça soit comme tous les sacs à tarte qu'on connaît déjà. Et on voulait, pareil, que ça soit écologique. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas récupérer les paquets de café, vu qu'en soi, on n'en fait rien des paquets de café. Donc, du coup, on a fait un petit dépôt dans notre collège et dans la primaire qui appartient à notre établissement. Tout simplement, on a investi récemment dans une machine à coudre. On avait déjà des machines à coudre chez nous qu'on a pu récupérer. Et on fait tout main, on coud tout, que ce soit les lanières pour le transporter, les scratchs pour les fermer. On assemble des paquets de café, on fait toutes les faces, après on coud les rebords et ça forme le sac. Une association comme ça, c'est bien parce que nous, en tant que mini-entrepreneurs, ça nous a appris beaucoup de choses de faire la mini-entreprise.
Le travail en équipe, qu'il faut être soudé et qu'il faut vraiment écouter chacun. Faut pas faire dans son coin, faut vraiment écouter les avis de chacun. Des fois, il faut se plier aux avis des autres. C'est pas toujours facile.
Travailler en équipe, la confiance en soi aussi, ça apporte beaucoup de confiance en soi. Parce que néanmoins, déjà, faire partie d'une entreprise, c'est déjà quelque chose. Créer un produit, après, ce qu'on fait en ce moment, aborder des gens pendant un stand et tout, c'est beaucoup de confiance. Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que mes camarades aussi. Pour l'instant, on en tire tous une expérience positive de la mini-entreprise et je pense que personne n'est déçu.
Et aussi, ça nous permet de connaître la gestion d'une entreprise et le monde du travail pour plus tard, qui va vite arriver à notre âge.
Des élèves très motivés qui s'investissent lors d'une heure de cours par semaine et aussi certains week-ends ou mercredis. Le projet est encadré par Mégane Denis, professeure de technologie au Collège Saint-Nicolas à Villaines-la-Juhel.
Moi, je guide par rapport à ce que nous donne l'association EPA, Entreprendre pour apprendre. En fait, c'est un projet quasiment clé en main. On nous donne toutes les étapes à suivre pour aboutir au projet. Ils ont besoin de travailler ensemble, ils développent tout ce qui est compétences au niveau de la coopération, l'esprit d'entraide, comment on négocie, comment on réfléchit vraiment au sein d'une entreprise en découvrant tous les postes possibles d'une entreprise. Et ça, c'est un réel intérêt pour l'orientation. Certains se découvrent une âme commerciale, d'autres, où on aurait pu croire, étant donné qu'ils sont à l'aise en classe, eh bien, ne l'ont pas du tout. C'est vraiment un guide pour la suite. Voilà, moi j'ai une élève qui m'a dit, non, moi clairement, commercial, c'est pas mon job. Je veux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi un projet qui partage. Ils développent des liens entre eux. Même avec l'enseignant, on les voit complètement différents que ce qu'on peut les voir en classe.
Les élèves se sont exceptionnellement investis sur 2 ans cette année à cause de la Covid, contre 1 an d'habitude. Dans leur chiffre d'affaires, 20% est redistribué à l'association Coup de Pouce, qui aide les enfants en décrochage scolaire. Le reste permettra pour eux de faire une sortie pédagogique. Alors pour suivre leur évolution, vous pouvez taper ECO avec le tiret du bas Lège sur Facebook ou Instagram. Au total, 15 mini-entreprises de ce type sont en activité cette année en Mayenne, que ce soit avec des collégiens, des lycéens ou des étudiants. On vous en parlait en tout début d'émission, Unicité, l'association est connue pour ses services civiques et pour les missions qu'elle propose. Justement, en Mayenne, à partir du mois de mai, elle va proposer des nouvelles missions, mais elle accueille déjà des volontaires. Vous les entendrez d'ici 3 minutes, juste après avoir écouté Wanderlust de The Milk.
Keep myself buried, brooding in my sleep. It's where I'm free to scream about the sadness that I keep. And the nightmares feed the nightmares and the mornings I can't bear. Cause now when I'm finished screaming, I wake in your nightmare. Yeah. As strange as it may seem, I'm the colors in between, wanderlust. It's wanderlust, but the more I get to know, the more I have to go. Wanderlust,
this is wanderlust. The more I get to know, the more I have to go. Wanderlust, I guess it's wanderlust.
Wanderlust de The Milk sur l'autre radio. Vous êtes toujours à l'écoute de la JT du local et on poursuit donc évidemment notre programme. Comme annoncé juste avant la pause musicale, Unicité propose de nouvelles missions de service civique en Mayenne. L'association est connue et reconnue au niveau national comme grande pourvoyeuse de missions de volontariat. C'est aussi le cas en Mayenne où 16 jeunes poursuivent actuellement leur mission commencée en septembre. Retour d'expérience avec deux d'entre eux et leur coordinatrice.
Bonjour, moi je m'appelle Chloé et du coup j'ai 19 ans et je viens de Château-Gontier. Je suis dans la mission donc JAD, jeune ambassadrice des droits et de l'égalité, donc pour lutter contre les discriminations.
Moi c'est Azilise, j'ai 23 ans et donc je suis dans la même mission que Chloé, JAD. Donc on intervient dans des collèges et des lycées principalement, donc pour présenter les discriminations aux jeunes, donc pour présenter déjà les différents critères sur lesquels il peut y avoir des discriminations, donc par exemple l'âge, le sexe, l'origine, le handicap, l'orientation sexuelle, etc. Et puis pour leur présenter leurs droits en fait, pour qu'ils sachent comment faire si jamais ils sont victimes ou témoins d'une discrimination.
Comment est-ce que vous organisez un petit peu vos séances ? Alors en fait, on va dans deux fois dans les établissements, on voit deux fois les jeunes. Donc une première fois, on fait une intervention vraiment théorique, où on leur apprend la discrimination, et on leur parle aussi du défenseur des droits. Et après, on revient une deuxième heure, donc généralement deux semaines après, pour qu'ils aient le temps de réfléchir et s'ils ont des questions pour pouvoir nous en reposer. Et là, du coup, c'est un peu plus ludique, où on fait des mises en scène, où on fait des petits bacs. Enfin voilà, on essaye vraiment de les faire jouer à travers la discrimination.
Est-ce qu'en général, c'est vraiment un thème qui leur parle tout de suite ou justement, il faut vraiment passer par pas mal de biais pour qu'après, il y ait des choses qui se déclenchent ?
Alors, on commence par parler, par exemple, de stéréotypes, clichés, préjugés, etc. Donc ça leur parle parce qu'ils en ont forcément entendu. Donc même s'ils ne connaissent pas forcément le mot stéréotype, ils ont des exemples quand on leur explique ce que c'est. Donc ça leur parle. Et après, de parler de discrimination, on a beaucoup d'élèves qui, finalement, à la fin de la première séance, nous disent bah, « En fait, merci, je comprends mieux ce que c'est, je ne me rendais pas forcément compte que ce que ça pouvait être, etc. » Donc ouais, ça leur parle quand même s'ils n'avaient pas posé de mots dessus, ça leur parle.
Vous intervenez auprès de qui, du coup ? Donc il y a des lycéens, mais pas seulement ?
Donc il y a les troisièmes, mais aussi on peut aller faire des événements annexes. Donc par exemple, là en ce moment, on fait des jeux de loi dans les centres de loisirs. Donc du coup, on est un peu plus sur un public de 8-10 ans. On s'est adapté, donc on leur pose des questions à travers la discrimination, mais on leur fait aussi des énigmes, des petits jeux pour que, vraiment pour pas que ça soit théorique et que ça passe mieux par le jeu. Donc là, ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes engagée dans cette mission. Au début, qu'est-ce qui vous a attirée ?
Le thème des discriminations, ça me concerne. Enfin, ça me concerne. Je me sens concernée par ce thème depuis très longtemps, et je voulais en fait pouvoir partager ça, être en intervention justement avec des jeunes pour pouvoir leur apprendre ce que c'est, etc. Avec Chloé, on est très timide à la base, donc c'est vrai que c'était pas très évident, surtout la première, on savait pas trop comment parler avec les jeunes. Mais maintenant, on est plutôt à l'aise avec eux, on arrive à trouver les bons mots pour qu'ils comprennent facilement, on est vachement plus à l'aise, et c'est même quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard au final, d'intervenir avec des plus jeunes, alors que, comme je disais, j'étais timide et que je me voyais pas travailler là-dedans avant. Maintenant que je connais le sujet, c'est beaucoup plus simple pour moi d'en parler, donc j'aime beaucoup... faire ça avec eux et leur apprendre des choses et qu'eux nous donnent aussi leur retour, qu'on puisse échanger, c'est super.
Du coup, moi, ce qui m'a attirée vers cette mission, après, c'est parce que plus tard, j'aimerais être toujours avec les jeunes. Et en fait, je voulais en apprendre plus, déjà personnellement, sur les droits, sur ce que moi, je pouvais avoir comme droit et ce que les enfants pouvaient avoir comme droit. Et du coup, c'était vraiment cette mission, elle entourait vachement ce que moi, j'attendais, mes attentes, quoi. Et ouais, depuis le début de la mission, ouais, je dirais comme Azilis, on a pris vachement d'assurance, mais même de la bienveillance aussi, parce que en soi, d'être devant des enfants, des fois qui viennent nous voir avec des soucis, on est obligé de réagir, d'avoir les bons mots, les bonnes paroles. Donc ouais, je pense qu'on a vachement pris de l'assurance par rapport à ce public.
Est-ce qu'il y a justement des séances ou des moments, des témoignages qui vous ont marqué plus que d'autres depuis le début ?
Oui, il y en a eu. Il y en a eu parce que c'est vrai qu'on n'était pas forcément prêtes. On a été formés au début de l'année par le défenseur des droits pour justement savoir comment réagir si jamais on avait des paroles préoccupantes, etc. Et en fait, il nous avait dit, en tant que jeune ambassadeur des droits et pour l'égalité, on n'a pas trop, en fait, normalement, de situations préoccupantes comme ça. C'est vrai que nous, on en a eu et qui nous ont marqués. Mais donc, on a su réagir vu qu'on a été formés. Donc normalement. Par exemple, une personne qui avait des troubles autistiques et qui se faisait harceler par les autres élèves dans sa classe, en fait. L'élève est venu nous voir directement pour nous dire ce qu'il avait comme souci. Donc nous, on a essayé de discuter avec lui. On a parlé donc un peu de troubles autistiques pendant notre séance, mais pas beaucoup parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de tous les critères en général et pas focaliser sur un seul. Donc on en a quand même parlé un peu avec les autres pour qu'ils sachent que le harcèlement, c'est aussi puni par la loi, etc. Mais du coup après dans nos formations on a appris qu'il fallait qu'on en parle à notre coordinateur, donc c'est ce qu'on a fait tout de suite, et elle a su nous répondre dans l'heure en fait, de savoir ce qu'il faut faire pour aider le jeune.
Qu'est-ce que ça vous a apporté donc depuis le début, vous disiez en tout cas en termes de confiance, d'aisance devant un groupe, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles vous avez progressé ou que vous avez appris?
Je dirais déjà tout simplement prendre la parole devant un groupe, parce que c'est quelque chose de pas facile. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand il fallait faire un exposé ou autre, j'étais incapable de me mettre devant une classe. Et là, en fait, on a été mis devant le fait accompli, où on s'est dit, on a commencé cette mission, maintenant, on y est, on va y aller. Et vraiment, le fait de se retrouver devant une classe, au début, c'était pas simple. Et maintenant, c'est vrai qu'on fait ça tous les jours, donc pour nous, c'est devenu banal, quoi.
Je pense qu'on a aussi beaucoup appris à être patiente et persévérante, parce que des fois on peut tomber sur des classes difficiles et donc il faut être patient et persévérant, bien expliquer avec des mots plus simples s'ils ne comprennent pas, et ne pas s'énerver, hausser le ton si jamais on entend des remarques qui peuvent nous énerver intérieurement, mais donc vraiment garder son calme et expliquer calmement la situation que la personne peut donner, comment elle peut être discriminante ou raciste, etc.
On s'adapte vachement. On a appris à s'adapter à toute classe, parce que chaque classe est différente, on a rencontré différents publics aussi. Et je pense que l'adaptation, elle fait vachement partie de notre mission. Enfin, je pense que ça entoure notre mission, quoi.
Et puis, j'imagine qu'aussi, au début, c'était pas toujours évident d'aller démarcher les établissements pour les convaincre de vous faire intervenir.
Oui, c'était pas évident. Et puis en plus, il fallait le faire par téléphone, vu que c'était confinement, par téléphone ou par mail. Et donc, des fois, on n'avait même pas de retour. Donc, c'était un peu difficile au début. Mais on a quand même insisté. Et au final, on doit même en refuser maintenant des établissements, tellement on en a. Donc c'est qu'on a quand même, c'est quand même donné à fond dans le démarchage.
Quel est votre lien au quotidien avec les autres équipes? Bon,
hormis du coup ce temps de réunion le mardi.
Sinon, on les voit pas beaucoup parce que chacun est donc soit ils sont en EHPAD, soit ils sont dans les familles, les personnes isolées du quartier. Donc en fait, on va plus les voir le midi, par exemple, quand on est à Unicité. Et sinon, ouais, c'est vraiment plus le mardi où on va les voir tous ensemble.
Dans nos missions, il n'y a pas vraiment de lien. Mais par contre, je sais qu'il va y avoir de l'entraide aussi entre équipes. C'est-à-dire que si les autres, ils vont faire une animation, ils vont nous demander conseil. Est-ce que ça, vous pensez que ça pourrait marcher ou pas? Du fait que nous, on est dans des établissements. Ceux qui sont sur la mission gaspillage alimentaire, ils vont dans les écoles, donc ils nous ont demandé des conseils et tout ça. Et puis même ceux qui vont en EHPAD, ils font des diaporamas pour les personnes âgées, donc ils nous demandent... en fait, c'est vraiment de l'entraide entre équipes pour justement avoir des conseils, pour savoir si ça va être bien ou ça va pas être bien. Et du coup, effectivement, on les voit peut-être pas beaucoup, mais ça va être de l'échange, en fait, quand on est à la maison de quartier.
Vous, plus personnellement, du coup, là, on est quand même plutôt vers la fin, on va dire, le milieu fin de cette mission. Est-ce que ça a changé aussi vos projets pour la suite, du coup, cette mission?
Alors moi, j'ai fait avant une licence de mathématiques et économie et un master études sur le genre. Et donc, dans mon master, je me suis rendu compte que je voulais travailler donc avec des plus jeunes, mais je ne savais pas quoi exactement. Et donc là, aujourd'hui, ça m'a vraiment confirmé le fait que je voulais travailler avec des jeunes et dans le social, ça c'est sûr. Et vraiment aussi dans le thème un peu des discriminations, peut-être plus focalisé sur l'égalité femmes-hommes, sur les critères donc de sexe, d'orientation sexuelle et d'identité de genre, mais je sais pas encore quoi exactement.
Et moi du coup ça a conforté mon choix du coup. Donc moi j'aimerais partir sur moniteur éducateur. Et donc l'année dernière j'étais en bac ST2S. Donc là, j'avais choisi de faire l'année de service civique en transition, justement, pour voir si je comptais changer mon projet professionnel ou justement si je voulais continuer. Et du coup, je vais rester dans la même voie, dans le social, pareil.
Je m'appelle Bénédicte Moreau et je suis la coordinatrice d'équipe et des projets pour l'association Unicité sur l'antenne de Laval.
Unicité, donc, qui en tout cas accueille combien de volontaires ici?
Alors actuellement, on accueille donc 16 volontaires pour des missions de 8 mois à raison de 28 heures par semaine. Et donc, on est basé à la maison de quartier des Fourches. Voilà, donc 16 jeunes répartis en 4 équipes.
On peut détailler les 4 équipes en plus des jeunes ambassadeurs des droits. Donc, on a entendu tout à l'heure, il y en a 3 autres.
Voilà, tout à fait. Donc, il y a 3 autres équipes. Donc, pareil, ils sont 4. Donc, on a une équipe dont la mission est de lutter contre le gaspillage alimentaire, donc en lien avec les services de Laval Agglomération. Donc, eux, ils interviennent dans 2 écoles primaires de Laval. Et donc, ils vont d'abord quantifier le gaspillage alimentaire par des pesées, animer des animations sur le temps scolaire pour sensibiliser les élèves. Ils refont des pesées et puis ils vont analyser si leur action a pu permettre de diminuer le gaspillage alimentaire. Et il y a un travail aussi avec forcément la restauration collective, le restaurant scolaire, parce qu'il y a des choses où effectivement c'est plutôt du gaspillage lié à une surproduction que des comportements d'enfants. Donc il y a tout ce travail-là qui se fait. L'autre équipe, une double mission, alors un peu forcée à cause du Covid, puisque cette équipe devait travailler au départ que sur le handicap. Et donc, avec le Covid, seul le projet avec l'association des familles Autisme 53 a pu perdurer. Donc, ils vont à domicile accompagner des enfants autistes pour permettre aux parents d'avoir un temps de répit pendant 2 heures. Donc ça a continué. Par contre, puisque ça a démarré au confinement au mois de novembre, le partenariat qui se met en place avec l'ADAPEI n'a pas pu se mettre en place. Et donc, on a inventé un petit projet sur le quartier des Fourches, ici, où ils luttent contre l'isolement des personnes qui peuvent être tout seules. Voilà. Donc, ils ont démarché, je crois que c'est 250 appartements. Et puis là, ça se met en place. Donc, ils interviennent à domicile, ils font des petits jeux, ils font discuter les gens. Et là, ils sont dans le projet de créer un journal sur la mémoire, un petit peu sur des histoires qu'ils vont avoir récoltées auprès des habitants. Et la dernière équipe, C'est un partenariat donc avec le CCAS de la ville de Laval sur, pareil, les personnes âgées, le bien-être des personnes âgées. Donc, ils interviennent 2 jours par semaine dans les résidences Ferrier et Estia avec l'équipe d'animation, voilà, où ils proposent des petites animations, soit individuelles ou collectives aux résidents. Et puis, une journée avec la bibliothèque Albert Legendre où ils vont faire du portage de livres à des personnes qui sont empêchées. Et puis de passer du temps aussi à discuter avec eux. Des fois, alors le livre, des fois, voilà, des gens très très lecteurs et d'autres moins, où ils ont envie d'avoir une petite discussion avec des jeunes, voilà, dans la semaine. L'association a une cité, l'antenne de Laval, date de 2016. Donc il y a des partenariats qui se sont créés depuis 2016. La nouveauté de cette année, c'est que les jeunes, ils ont qu'une seule mission. Voilà, par exemple les jades ou le gaspillage alimentaire, alors que avant c'était sur 4 jours, donc 2 journées sur une mission et une autre thématique les 2 autres jours. Et donc depuis cette année, ils ont qu'une mission et ils ont ces fameux mardis où ils sont tous regroupés. En fin de compte, oui, je pense que c'est un bon système parce que je pense que ça leur permet d'aller plus loin sur la thématique de leur mission. Voilà, ils survolent moins puisqu'ils ont plus de temps. Donc, je pense qu'ils vont plus loin sur la thématique. Je pense aussi que la journée de mardi, c'est un bon moyen en termes de cohésion d'équipe. C'est très important. Et puis, ils mènent aussi des projets tous les 16 ensemble. Donc, c'est aussi une autre expérience que de s'organiser à 16 pour créer des projets. Donc, pour l'instant, les retours, voilà, on a testé cette année, les retours sont plutôt positifs de la part des jeunes. Ouais.
Justement, qu'est-ce que vous en attendez en général des volontaires? Là, vous avez lancé justement le recrutement pour de nouvelles missions. Qu'est-ce que vous attendez, en tout cas, dans les candidatures que vous allez avoir?
Alors, quand on vient faire son service civique à une cité, c'est quand même un engagement fort. Alors, s'engager forcément pour la société, à être utile, mais c'est aussi avoir la volonté de s'ouvrir aux autres et de travailler en équipe, parce que je pense que c'est presque le plus dur dans leur mission de service civique, puisque l'association, l'idée de l'association, c'est de faire en sorte que ces jeunes, venus d'horizons différentes, qui ont fait des études, de milieux d'origine différentes, puissent se rencontrer et travailler et œuvrer ensemble pendant 8 mois. Et on pense que c'est certainement le gage d'une société beaucoup plus tolérante pour le futur. Donc effectivement, quand on a envie de venir à une cité, il faut avoir l'envie de s'ouvrir aux autres. Après, effectivement, là, on recrute 18 jeunes pour un projet en lien avec le conseil départemental dans les EHPAD du département, sur voilà, ce lien intergénérationnel et tout ça. Qu'est-ce qu'on demande aux jeunes? Qu'une seule chose, c'est d'être motivé pour être utile. Le reste, il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi on est motivé, pourquoi on a envie de faire ça, pourquoi on a envie de s'engager pour 8 mois. Tout se passe bien, ils passent un entretien avec les volontaires, les anciens volontaires, qui sont certainement les mieux placés, mieux que moi, pour évaluer la motivation de leur père. Donc voilà, on attend que ça, que la motivation.
Sur ce projet dans les EHPAD, quelles seront leurs missions?
Ils seront 3 jours par semaine, donc par équipe de 3 ou 4, c'est pas encore tout à fait calé ça. Ils seront donc dans un EHPAD, alors on ne sait pas le lieu encore, hein, puisque ça sera sur tout le département. Et ils seront en lien avec l'équipe d'animation, comme ce que fait d'ailleurs les jeunes actuellement dans les EHPAD Ferrier et Estia. Et là, après, tout est permis, hein, dans le respect forcément du cadre de la résidence. Mais c'est ce qu'on dit souvent aux partenaires. Voilà, un EHPAD, moi, qui viendrait me demander, Madame Moron, on veut 4 jeunes parce que on voudrait, je sais pas moi, à la fin de l'année, réaliser une super vidéo sur ce que font les résidents. C'est le genre de mission qu'on peut pas prendre parce que moi, je ne peux pas assurer que dans les 4 jeunes, il va y avoir des jeunes qui ont des compétences en vidéo. Par contre, si leur projet est de valoriser ce que font les résidents, mais il faut qu'ils prennent le risque que peut-être que ce sera une BD, une pièce de théâtre, selon les compétences et les envies des jeunes, puisque c'est leur projet. C'est pas à moi qu'on confie la mission, c'est à eux. Donc ils en font ce qu'ils en veulent. Et puis à 4, ils vont travailler ensemble et œuvrer pour que ce projet se réalise.
Et si vous êtes intéressé par cette nouvelle mission de volontariat dans les EHPAD, une réunion d'information est organisée demain à 14h à la maison de quartier des Fourches à Laval, sur inscription sur le site de l'antenne lavalloise d'Unicité. On revient d'ici quelques minutes, juste le temps d'écouter un morceau bien dans l'air du temps aujourd'hui qui colle bien à la météo, Soleil Soleil de Pomme.
1, 2, 3... me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil. Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir, on pourra tous partir.
Tout en douceur avec Pomme, c'était Soleil Soleil dans l'agité du local. Exceptionnellement, elle a lieu ce mardi au lieu de mercredi, une nouvelle chronique de Jean-Michel Guinaudot du FC Que Choisir Mayenne, et on parle aujourd'hui véhicules d'occasion.
Auditeurs consommateurs, bonjour. L'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Mayenne vous informe. C'est presque chaque jour que nous recevons un appel au secours suite à l'achat d'une voiture d'occasion qui présente de gros défauts, quelques semaines ou quelques mois après, quand ce n'est pas l'heure du retour, sans avoir fait beaucoup de kilomètres. Et on nous demande, quels sont mes recours contre le vendeur ? Si la voiture a été achetée auprès des particuliers, ils sont très limités. La loi ne prévoit aucune garantie autre que celle des vices cachés et, sauf accord amiable, très rare, il faudrait faire valoir la publicité mensongère ou le vice caché, faire une expertise contradictoire, puis aller devant un tribunal et attendre plusieurs mois le jugement, et ensuite faire des démarches pour récupérer son argent, autant dire la galère. Et la bonne affaire s'avère ruineuse. Alors, préférons l'achat chez un garagiste ou un professionnel de la vente d'occasion. La loi prévoit dans ce cas une garantie de conformité et tout défaut constaté dans les 6 mois suivant l'achat étant présumé exister lors de l'achat. La preuve du contraire étant à la charge du professionnel. Mais là encore, si le professionnel est de bonne foi, il s'exécutera. Mais dans le domaine de la voiture d'occasion, trop nombreux sont les professionnels de l'arnaque. Car il est très facile d'acheter une voiture 2000 euros et de la revendre 8 jours après 3000 euros, sans avoir fait aucun frais, autre qu'un nettoyage intérieur et extérieur, éventuellement remplacer une ampoule de clignotant et passer le contrôle technique. Mais quid de l'embrayage, du turbo, de la boîte de vitesse, de la crémaillère de direction ? Qui vérifie la qualité du liquide de refroidissement dans le radiateur, qui devrait pourtant être changé régulièrement ? Et le contrôle technique ne donne pas grand-chose, car ce n'est qu'une vérification sans démontage. Et même le kilométrage n'est pas garanti. Comme pour un achat à un particulier, le recours envers un garagiste arnaqueur sera le parcours du combattant. Même un achat chez un concessionnaire, réputé pourtant, peut être une source de litiges sans fin. Quelques conseils toutefois pour acheter une voiture d'occasion. D'abord, achetez local. Dans un rayon autour de 20 km autour de chez vous, les relations seront toujours plus faciles que si le vendeur est à 200 ou 500 km. Achetez malgré tout chez un professionnel reconnu, ayant une réputation à défendre. Vérifiez sur les forums la fiabilité du modèle. Et si l'achat à un prix élevé n'est pas une garantie de bonne qualité, le prix bas est à coup sûr une source d'ennui. On n'en a toujours que pour son argent. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que si vous n'avez que de petits moyens, il ne faudrait pas vous lancer dans l'achat d'un véhicule à bas prix, engloutissant toutes vos maigres économies, mais voir vos capacités d'emprunt. C'est trop risqué. Il serait préférable de prendre une formule de type location longue durée. Vous aurez un véhicule en bon état dont vous maîtriserez le coût d'utilisation. Il existe de nombreuses formules, le loyer pouvant dépendre de l'apport, d'options sur l'entretien, qui peut ou pas être compris. Mais attention, le véhicule doit être rendu dans un état impeccable en fin de contrat, sinon des frais importants de remise en état seront comptés. Et n'oubliez pas, le FC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous. Bonne semaine.
Merci beaucoup et on retrouve une prochaine chronique conso dans 15 jours, évidemment, dans cette émission. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec Claire et la semaine du 21 mars, Claire, était celle de la lutte contre les discriminations. L'autre radio en avait d'ailleurs participé et à Mayenne, les mobilisations continuent.
Et oui, dans le cadre de cette semaine spéciale, 3 matinées d'échanges ont été organisées par l'association Les Possibles et le Mémorial des Déportés de la Mayenne, au programme des ateliers, des jeux, des débats et des échanges autour des différents types de discrimination. Prochain rendez-vous demain, mercredi 31 mars, de 10h à midi, au quartier Brossolette à Mayenne.
Le forum Mobilité Internationale est annulé, mais pas les rencontres.
Si vous êtes jeune, si vous voulez voyager, plein d'options s'offrent à vous et le Centre Information Jeunesse vous propose d'en découvrir quelques-unes. Demain, mercredi après-midi et jeudi 1er avril au soir, pour le premier rendez-vous, il s'agit de découvrir le Corps Européen de Solidarité. C'est pour les 18-30 ans en volontariat. Ce sera de 13h30 à 18h dans les locaux du CIGE, place du 18 juin à Laval. Il faut s'inscrire sur la plateforme Hello Asso. Et pour le jeudi, il s'agit des plateformes proposant des séjours au pair, c'est à 18h30 en live sur Facebook et Instagram en tapant CIGE Laval.
Merci beaucoup Claire, c'est bien noté. En parlant de réseaux sociaux, hein, si vous y êtes, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter, nom du compte L'Autre Radio, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis si vous avez des initiatives à nous partager, des messages à faire passer, n'hésitez pas là aussi à nous laisser un message vocal au 09 70 40 59 40. C'est déjà la fin de notre émission La JT du local pour ce mardi. Merci Claire.
Merci Marie et on se retrouve demain.
On se retrouve demain justement pour une émission spéciale au Théâtre de Laval avec notamment les occupants qui y sont depuis quasiment 2 semaines. Donc ne manquez pas cette émission demain, toujours au même horaire, midi 15. Mais d'ici là, à l'antenne, à 20h, il y aura The Voice of Cassandre, suivi à 21h de Frères de Chaussures. Puis à 23h30 des Mémoires de la Commune de 1871 par Louise Michel. Et nous, vous l'avez compris, on se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.